Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou pour ceux qui nous rejoignent et bienvenue aux autres qui nous ont déjà rejoints plus tôt dans la journée. Nous allons poursuivre et clôturer notre colloque sur les séries télévisées en Amérique latine par une dernière table ronde qui démarrera dans quelques minutes. Avant toute chose, je voulais vous rappeler que les débats étaient enregistrés en mode vidéo pour ce soir et diffusés en direct sur Internet, pour ceux qui auraient été absents ou si vous voulez l'indiquer à d'autres personnes. Et avant de vous présenter la dernière table ronde de la journée, nous allons assister à une projection vidéo de quelques extraits de séries télévisées chiliennes qui nous ont été faites par Cecilia Stolze, que vous avez entendu dans la journée, pour vous donner un petit peu une idée de la tonalité esthétique, sociale, de ces séries et auxquelles les intervenants de ce soir pourront aussi réagir. Voilà. Bonne projection et à tout de suite. Merci Cécilia. Quel bel échantillon et teaser, j'allais dire, pour vous montrer un peu la diversité. Je vous rappelle que c'était une sélection d'extraits de séries uniquement chiliennes. Donc, si on avait pu voir la diversité du continent, ça vous donne une image déjà de cette diversité que nous allons justement aborder pour cette dernière table que nous avons intitulée « La diversité à l'écran ». Je vais appeler les différents intervenants à venir s'asseoir ici. Marco Dell'Omo d'Arme, nouvelle nationalité présentée ce soir, puisque l'Italie est également représentée, va animer cette table et va vous présenter les différents intervenants. Marco est enseignant-chercheur en philosophie à l'Université de Lille et s'intéresse beaucoup aux séries et notamment au champ des études culturelles. C'est aussi à ce titre-là qu'il est là ce soir, notamment au sein du comité éditorial de la revue Poly, Politique de l'image, qui est aussi le partenaire de cette soirée, un fidèle allié de la BPI. Donc voilà, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous présente un petit peu les différents intervenants et qu'il puisse dialoguer à la fois sur ce que nous venons de voir et plus largement sur les représentations dans les séries télé en Amérique latine. Bonne fin de soirée.
Merci Jérémy. Donc j'invite donc les participants à la table à venir occuper leur place. Et bonsoir. Donc merci donc d'être resté pour cette dernière table ronde et bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints donc au cours de cette rencontre qui, je le rappelle, a démarré ce matin et que nous poursuivons donc avec cette table ronde intitulée Jeu du miroir, la diversité à l'écran. Cette table ronde sera suivie d'une performance musicale de Fernando Cavaco qui clôturera la journée. Donc restez dans la salle parce qu'à la fin de cette table ronde, en fait, ce ne sera pas encore fini. Je vais maintenant passer à la présentation des invités et nous allons discuter donc autour des questions que soulèvent les politiques de représentation dans les séries télé et ce pendant environ une heure et quart, après quoi on vous donnera la parole pour des échanges avec vous. Donc, place aux invités maintenant. À ma gauche, Sabine Chalvon de Mercé, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS. Elle travaille particulièrement sur le rôle de la fiction télévisée dans les changements sociaux. Ses premiers travaux sur les séries télévisées datent de l'arrivée en France de la série américaine Urgence, où elle a réalisé une très longue enquête sur la réception de la série, qui a donné lieu à plusieurs publications. Elle a ensuite travaillé sur l'histoire de la fiction télévisée française et a été notamment l'auteur avec Patrick Jeudy d'une série de 6 documentaires diffusés sur France 5 sur le polar, les comédies sentimentales, les sagas, les fictions historiques, les adaptations littéraires. Ses recherches actuelles portent sur les héros des séries télé qu'elle propose d'appeler HST, dans lesquelles elle voit des outils de consolidation de représentation, mais aussi des opérateurs de changement. Elle s'intéresse donc aux aspects cognitifs des fictions ainsi qu'à leurs enjeux moraux et politiques. Donc, à ma droite, à l'extrême droite, si on veut dire Carolina Sakel. Mais c'est la mienne, c'est à la gauche du public, t'inquiète. Est une artiste avocate, née au Chili, elle arrive en France en 2003 pour le programme Le Frenois dans le nord de la France, puis réalise un master de théorie et pratique de l'art contemporain à Nouveaux Médias. Carolina Sakel utilise principalement la vidéo comme moyen d'altérer la perception de la temporalité des phénomènes et des événements apparemment banals et sans importance. Gestes corporels, l'histoire de la peinture et ses genres, l'observation de la nature dépouillée de la présence humaine, références cinématographiques et documentaires sont quelques-uns des points de départ de son travail. Son travail vidéo a été montré dans des programmations, dans des festivals vidéo et films, et dans des expositions. Donc les lieux d'exposition, on en rappelle quelques-uns, donc EP13, Fondation Jean Miró à Barcelone, Cadist Art Foundation à Paris, Harbourfront Center de Toronto au Canada, le Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, le Grand Palais à Paris, l'Espace culturel Louis Vuitton, toujours à Paris, le Bloomberg Space à Londres et le... Je pense que je vais le prononcer pas très correctement, mais le Wuttenberg-Gischer Kunstverweis à Stuttgart. Mon allemand est très, très mauvais, mais bon, vous m'excuserez. Je maîtrise déjà mieux l'italien. À ma droite, donc, Marga Mouroy est comédienne au théâtre, au cinéma et dans des productions télé. Elle est diplômée de l'Université catholique de Chili. Elle arrive en France, invitée par la compagnie Royal Deluxe et La Machine. Elle crée la compagnie franco-chilienne comme un théâtre en 2008. Une compagnie de théâtre contemporain où l'objectif principal est de mettre en dialogue les deux continents, donc l'Europe et l'Amérique latine. Elle enseigne l'expression orale et gestuelle à l'Université de Nantes. Elle travaille actuellement sur une nouvelle création qui s'organise entre la France et le Chili, dans laquelle elle se confronte à l'histoire de la conquista au Chili. Et enfin, donc Sergio Cotorivel est docteur en études ibéro-américaines et actuellement maître de conférences en civilisation et littérature latino-américaine. Il travaille particulièrement sur le roman contemporain en Amérique centrale et les questions de genre et sexualité, ainsi que sur les représentations identitaires dans les productions latino-américaines récentes. Donc, comme je vous disais, donc, la question qui anime cette table ronde est celle des représentations qui se jouent et qui sont données à voir à travers les séries télé. Donc, rapports sociaux de genre, rapports sociaux de classe, rapports sociaux liés à l'ethnicité, à la sexualité. Pourquoi s'intéresser à la représentation, Sergio Cotorivel? Cette question est pour vous. Quel est l'intérêt? Plus particulièrement, que nous disent les représentations des rapports sociaux de genre, de classe, de race, d'ethnicité et de sexualité? Enfin, je crois que dans l'extrait, le générique, par exemple, de Macho dit quelque chose comme « on n'en est pas homme, on le devient ». Enfin, « on est homme », pardon, justement, c'est très intéressant, renvoie un peu plutôt à mon background. Donc « on est homme, on ne le devient pas ». Donc que disent les représentations et pourquoi s'intéresser?
Je crois d'abord que quand on parle de la telenovela en Amérique latine et ce genre de représentation, il ne faut pas oublier... Bon, on a entendu au long de la journée beaucoup de diversité dans la telenovela, des questions de groupes minoritaires, de questions locales aussi, et une diversité dans les sujets traités. Mais ça, on le trouve normalement dans des productions beaucoup plus récentes. Mais il faut aussi mentionner toute cette histoire du genre en Amérique latine, qui vient de loin, des années 60, 70, 80, qui véhicule des représentations très, très traditionnelles du genre, des questions de rapports sociaux aussi, et des personnages types qui varient, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Et donc, on voit maintenant, et quand on se pose cette question, la question de l'ouverture dans les thématiques représentées, mais on se pose aussi la question de la réception de cette variété qui arrive les dernières années. Parce que, et je m'explique, il y a une perception aussi, où il y avait, je ne sais pas jusqu'à quel point ça continue, de la telenovela comme un genre exclusivement féminin, d'abord, pour les gens qui regardaient. Et si je parle, par exemple, de mon expérience personnelle, moi, je viens du Costa Rica, c'est un pays qui ne produit pas de telenovela, mais qui consomme, comme tous les autres, énormément de productions étrangères. Et donc, il y avait toujours cette idée que c'était les femmes qui regardaient ces productions-là et qu'il ne fallait pas les regarder. Les hommes ne devaient pas regarder telenovela. Et je me rappelle très bien, Quand j'étais enfant, des gens de ma famille me disaient « Non, il faut pas que tu regardes ça, c'est pour les femmes. » Donc les hommes ne regardent pas ce genre de production. Donc d'abord, pour la réception de la production, c'était clairement dirigé aux femmes. Après, on voit aussi une ouverture, quelque chose que 10 années auparavant ou 15 années auparavant, on n'aurait pas vu, de diffusion de telenovelas dans des endroits typiquement masculins. Et parce que, et ça, je crois, grâce à cette ouverture thématique, ça a intéressé un public beaucoup plus élargi. Et on a assisté à des moments qui étaient comme un événement, des fins d'épisodes, des fins de telenovelas diffusées dans des bars et des espaces typiquement masculins, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc d'un côté, ce côté-là, par rapport à la réception du genre, et aussi qu'est-ce qu'on voit comme représentation des rapports des genres dans les productions en général. Et justement, toutes ces productions, en particulier dans les 80, 90, et mexicaines en particulier, si je parle de ce qu'on regarde dans des pays qui ne produisent pas telenovelas, la question a été évoquée ce matin, et la plupart des productions, ça venait du Mexique, évidemment, c'était Televisa, et avec des récits très, très marqués et très genrés par rapport aux positions de personnages, protagonistes et antagonistes, particulièrement les femmes. La position ou la structure de la famille traditionnelle qu'il faut garder, maintenir, et la présence aussi de l'Église catholique au sein de cette famille était très très claire dans ces productions mexicaines, très souvent représentée par un curé qui était ami de la famille. Et, sinon, le rôle aussi des hommes qui devaient donner des idées de cette masculinité qui était toujours présente, qui s'imposait et qui s'opposait aussi très clairement aux femmes. Donc des rôles très bien définis, très bien marqués, qui n'étaient pas du tout remis en cause. Mais ces représentations-là, à ces représentations-là s'ajoutaient aussi les questions sociales. Parce que c'était très souvent, et jusqu'à il y a très peu d'années, des mélodrames de la bourgeoisie. Et une bourgeoisie très blanche, déjà. Et aussi, quand je parlais de la réception et de ce qu'on disait, qui regardait les telenovelas, il n'y avait pas seulement cette question de la féminité, c'est-à-dire les femmes qui regardaient, mais aussi une question sociale. C'est-à-dire qu'on considérait que c'était les gens les moins instruits qui le regardaient. Donc, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de gens disaient qu'ils avaient appris à regarder telle nouvelle avec la bonne de la maison. Donc pas une question de famille, mais une question sociale qu'on pouvait voir là. Et donc dans toute cette histoire de représentation qu'on peut voir un peu comme ça, on arrive après à avoir une diversité importante. Par exemple, la représentation de rôles de personnages homosexuels qui commencent à apparaître petit à petit, qui sortent un peu de cette image comique, peut-être, mais pour présenter aussi des questions importantes de société. Et tout ce côté de minorité qu'on pouvait voir, ce merchandising social dont on a parlé ce matin, et c'est aussi lié à cette question sociale de qui regarde ces productions-là. Parce qu'il y a une envie pédagogique. Donc il y a une question pédagogique aussi de faire avancer aussi le sujet de société grâce à la représentation à l'écran de cette diversité. Donc justement, si je reviens à cette question-là, l'intérêt de voir, et peut-être historiquement, ce genre de représentation nous parle énormément de nos façons de comprendre, d'analyser, de lire aussi des rapports sociaux et, dans les pays latino-américains. Et il est indispensable, quand on parle de ces questions sociales, de voir comment ça a été représenté dans les productions les plus consommées dans le continent. Et c'est justement ça. Donc, pour moi, c'est vraiment inévitable de faire référence à la telenovela quand on analyse ce genre de questions sociales.
Merci beaucoup. Donc, vous avez associé quelque chose de très, très intéressant dans votre analyse, c'est-à-dire la légitimation du produit par, en quelque sorte, la masculinisation du public, donc ce qui déjà est ce que vous êtes en train d'annoncer, ce qui en fait indique en quelque sorte que c'est des images qui circulent et qui finissent par alimenter donc les univers référentiels de plusieurs personnes, et on arrive vers Carolina Sakel. Donc votre travail, c'est justement de construire des séquences vidéo qui finissent pour enrichir donc l'univers visuel et expérientiel de votre public. Et la question que j'ai envie de poser, c'est dans quelle mesure, donc en revanche, les représentations qui circulent déjà en fait alimente votre travail. Et donc, comment faites-vous le tri entre tous ces objets représentationnels que vous rencontrez dans votre vie, et en particulier dans votre vie d'artiste, si tant est qu'effectivement on puisse séparer votre vie de la vie d'artiste. Mais bon, enfin, comment vous alimentez des images que circulent, en fait?
Et moi, je fais une espèce de review comme ça de comment, en fait, dans ma vie, toutes les images ont quel type d'images ont commencé à construire une sorte d'univers visuel dont je existe dans mon travail vidéo, et d'une façon peut-être silencieuse, latente. Mais quand j'étais enfant, adolescente au Chili, parce que je suis arrivée en France en 2003, donc je n'étais pas du tout un enfant. Et j'ai regardé beaucoup la télévision, et j'étais très alimentée par les séries américaines, donc type Doug the Hazard, Dallas, et Columbo. Donc beaucoup de séries de télévision, je regardais pendant que je mangeais le goûter. Et de l'autre côté, ce qui est devenu très très important dans ma formation visuelle, c'était non pas seulement par rapport à l'image, mais c'était la musique. Donc en fait, des références très marquantes pour moi venaient donc de l'univers musical pop anglais. Le pop anglais donc avait toute une production de clips à l'époque, donc dans les années 80. Avec une esthétique particulière, avec un rythme donc lié à la musique, donc à une vitesse qui était tout à fait musicale, en fait. Après, quand je donc cela commence à intégrer une sorte de héritage qui reste en moi, qui m'a beaucoup marqué. Et puis par la suite, quand je commence donc à travailler dans le champ de l'art, et comment la question de l'image arrive comme référence, et la peinture était une source très importante dans les sources de référence. Mais au Chili, on n'avait pas des originaux. On étudiait la peinture dans des livres, avec des reproductions. Et c'est là était la façon dont on connaît, en Amérique latine, le maître des peintures. Et il me semble que là, il y a un point assez important de comment on intègre des références externes qui viennent, dans les cas de la peinture, notamment de l'Europe. c'est là aussi qui existe la tradition picturale chilienne, c'est-à-dire que des peintres aussi venaient en Europe à faire à étudier la peinture et à rentrer au Chili avec des références picturales françaises, notamment. Et tout cela, donc la question de la peinture qui commence à nourrir mon travail vidéo, où je commence à me rapprocher par le biais de la photographie. Et puis, au fur et à mesure, je commence donc à travailler la vidéo parce que la photographie n'arrivait plus à restituer un passage du temps qui était donc dans l'image mouvement, donc dans la vidéo. Et donc, c'est un peu cela qui construit donc la base, une base d'images. Et qui, bon, après, il y a, à part de la peinture et l'observation de la nature, qui vient aussi à partir de la représentation de la peinture. Donc, c'est là aussi, ce n'est pas. Même si je viens du Chili et que le paysage est. On est coincé entre la mer et la montagne, en fait. C'est notre paysage, c'est un paysage de bord. Et il y a des grandes étendues, mais aussi on est confiné, en fait. Et donc, apparemment, c'est comme si c'était pas possible de regarder ces paysages-là, c'était possible de regarder qu'à travers des représentations de peinture.
Oui, peut-être il y a un ajustement de l'œil, justement. Hein, il y a un travail d'ajustement du regard qui se fait à travers les représentations aussi.
Et tu parles de la question du temps.
Non, je parle vraiment de l'idée qu'on apprend à regarder. Du moment qu'on est plutôt, disons, qu'on s'interroge sur les représentations, il y a aussi une éducation à la représentation, en quelque sorte. Et donc, on ajuste le regard, en fait, sur les modes de représentation. C'est peut-être pour ça qu'il devient plus familier de regarder une image que de regarder peut-être les paysages.
Bah, c'est-à-dire qu'effectivement.
Je te coupe, mais aussi de produire. Tu vois, c'est-à-dire, il y a un travail aussi de production qui se fait à partir d'un apprentissage du regard.
Et puis, à partir de représentations qui sont donc dans de ces livres-là, et dans une deuxième étape, je ne sais pas si je réponds à ta question ou si je rebondis, mais quand j'arrive en France, c'est quand j'ai la possibilité de me rapprocher aux œuvres. Donc. Allez, par exemple, la première chose qui m'a étonnée, bon, j'avais vu Holbein déjà aux États-Unis, mais arriver en France et regarder, par exemple, Prado, Velázquez, c'était une confrontation aux originaux qui m'a mis confrontée à la question de la fiction de la peinture, donc la construction d'une narration picturale qui je me dis, tout ce que j'ai regardé dans des livres, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui me plaît le plus. C'est ce que je croyais que c'était vraiment l'original. Et cela aussi façonne mon regard et dans la question de la construction des fictions, en fait.
Okay. Merci beaucoup. Façonner le regard. Et on peut, en fait, je pense que Margam Roy, vous n'êtes pas sourde aussi à la question de rythme, temporalité. Vous êtes comédienne, je le rappelle, et être comédienne est aussi une manière de représenter. Comment représente-t-on, par exemple, l'appartenance de classe? Comment, par exemple, se joue la féminité des classes populaires et celle des classes plus aisées? Est-ce que cette question a un sens dans votre expérience? Est-ce que vous avez dû jouer avec ça?
Bonsoir, merci pour l'invitation. Et, oui, bien sûr, la position de la femme au Chili, c'est surtout... Nous, on vient d'une culture matriarcale. Donc, ça veut dire... notre culture, il vient des deux peuples Mapuche, qui est un peuple absolument matriarcal, où la femme va gérer et organiser les foyers. La maison, donc elle va gérer l'administration de la maison, de la famille en fait. C'est la base solide. Sans la femme, la famille n'existait pas. Donc, si tu veux, à la télévision, cette image est représentée comme ça. Et par exemple, dans les séries on a vu les images tout à l'heure sur le Papa à la deriva, c'est un père qui est tout seul, qui a perdu sa femme elle a décédé, donc il a trois enfants. et elle doit s'en occuper de sa famille. Mais finalement, c'est pas comme en Europe qu'un homme il va pouvoir tout gérer, les enfants, l'économie. Non, il va venir quelqu'un à attention, il va venir quelqu'un à remplacer, à prendre le rôle de la mère, soit la grand-mère, soit la nounou. Qui, en fait, il va toujours avoir une autre femme qui va remplacer la image materne. Voilà. Et aussi dans la projection de Pituca Silucas, c'est une femme qui est des classes sociales hautes, qui le mari, il part en prison. Et il perd tout l'argent, donc il doit changer des classes sociales et économiques aussi, donc il doit déménager des quartiers. Et c'est une femme qui n'a jamais travaillé, qui a toujours été soutenue pour leur mari, hein. Et parce que si bien c'est une société patriarcale, mais c'est machiste aussi, donc c'est la base. La femme, mais c'est toujours l'homme qui va être qui va prendre la protection à niveau alimentaire, à niveau à l'extérieur, à la chasse, on peut dire. Et donc Pituca Silucas, pour l'exemple de cette télésérie, et cette femme, elle va finalement pouvoir s'adapter, même si elle va rester toute seule avec ses enfants et leur famille. Elle va pouvoir s'adapter et elle va pouvoir sortir à travailler. Et une fois que la femme sort à travailler, toute la famille, l'organisation familiale, il va changer. Et c'est comme ça que ça se passe un peu. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Si. Mais il y a quelque chose qui peut-être... parce qu'on s'est changé un peu quelques mots. Hein, avant, on va le dire, on triche un peu.
On peut pas le dire.
Voilà. Mais en fait, tu me parlais aussi dans le jeu, en fait, de tout un référent lexical, quelque chose qui a à faire aussi à la langue. Tu peux en dire plus de qu'est-ce que c'est que si, quel est le référent aussi, comment on peut identifier des rôles de classe sociale différentes à partir aussi de la connotation linguistique.
Voilà, ça va changer à niveau accent, comme ici en France aussi. Les classes sociales, ils vont être divisées pour les personnes qui parlent la classe sociale baja,
populaire.
Il y a moins d'éducation, donc ils coupent les paroles, ils coupent les mots, mais aussi la classe sociale haute. Ils parlent très mal aussi, la classe sociale haute chilienne. On va parler d'une autre façon, avec un accent plus du nez. C'est rigolo, ça. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Et la classe sociale haute chilienne, on va parler avec une sonorité spéciale. Et la classe moyenne, c'est là qui va tenir un peu l'équilibre. Tu vois,
Donc... Un vrai travail de jeu, hein, dans la représentation, effectivement.
Effectivement, enfin, oui.
Eh bien, Sabine Chalvon de Mercier, on revient en France. Ouais. vous vous intéressez aux questions liées à la représentation, mais sous un angle assez précis. Votre dernière enquête, encore en cours, dont les résultats sont provisoires, mais fiables, montre en fait que dès le générique des séries, il se dégage une régularité quant aux enjeux représentationnels. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Effectivement, en fait, donc on est en France, hein, c'est un contrepoint, je suis là pour apporter un peu un contrepoint. Et on a essayé de faire une grande enquête à partir des génériques des séries et des feuilletons. Donc on a commencé par les compter, hein, il y a 450 séries et feuilletons de 1995 à 2015, donc sur 20 ans. Et puis ensuite, on a pris les génériques. Donc dans les génériques, il y a la partie personnage et il y a la partie comédien. Alors, on a regardé comment étaient désignés les personnages. Donc souvent, ils sont présentés par leur prénom, mais quelquefois par un sobriquet, quelquefois par leur métier. Et quelquefois, alors c'est un drôle de monde, parce que c'est un monde où bien on a un prénom, ou bien on a un métier. Hein. Mais on ne peut pas avoir les deux, puisque dans le générique, en général, il n'y a qu'une chose. Souvent, il y a des éléments qui les accompagnent. Et puis ensuite, on a pris les comédiens et on a été regarder sur Internet parce que souvent les comédiens ont des documents dans lesquels ils se présentent, donc on connaît leur âge, leur date de naissance, leur taille, leur poids, quelquefois les sports qu'ils pratiquent, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, tout ça. Et on a associé tout ça en se disant qu'il y avait une convention naturaliste et que les comédiens aujourd'hui jouaient des personnages qui avaient à peu près les mêmes genres de caractéristiques qu'eux. Et ça nous a donné des éléments pour faire une démographie des personnages de fiction sur 20 ans. Alors tout ce personnel des fictions, des séries et des feuilletons, ça représente 50 000 personnages. Alors sur ces 50 000 personnages, on a eu quelques informations que peut-être je peux vous commenter un petit peu vite, si c'est possible d'avoir 2-3 graphiques. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Alors là, peut-être dans l'ordre. Peut-être commencer par le premier. C'est le premier,
Prends ce micro-là. Mais reste dans la caméra. Reste là.
D'accord. Alors, on voit, donc c'est des graphiques qu'on appelle des graphiques alluviaux. C'est-à-dire que c'est plus des outils d'analyse, c'est pour ça qu'on disait que l'enquête est en cours, hein. Ça vient de sortir des ordinateurs. C'est des outils parce qu'on peut voir les répartitions, là, sur chacun des éléments, et ensuite on crée ces espèces de spaghettis pour voir la signification des répartitions. Alors là, on voit déjà ce qui va être confirmé dans toute la série, c'est que les hommes sont un peu plus importants que les femmes. On passe sur le suivant. Parce que voilà, ça c'est. Donc je vous ai dit qu'on regardait. C'est quoi ça? C'est les prénoms?
Ça, c'est les prénoms.
Voilà, c'est les prénoms. Donc, quels sont les prénoms des héros de fiction? Alors, il y a eu un comptage par épisode, dans lequel, pour chaque série, on compte tous les épisodes, pour chaque épisode, et il y a un comptage par série. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les prénoms qui sont les plus donnés, ben, c'est quand même les prénoms les plus courants.
Celui-là, c'est-à-dire Marie, Pierre et Paul. Ouais, ça, c'est les prénoms les plus fréquents au niveau des séries. Au niveau des épisodes, c'est un peu différent. C'est Thomas, Vincent, Fabien, Emma, Roland. Roland va à cause de Plus belle la vie, très représenté, parce que je suis en compte chaque fois un épisode. Donc on voit un univers qui se dessine, qui est un univers en fait assez classique, hein, par rapport à la... Ouais. On peut passer au graphique suivant?
Oui. Donc ça, c'est le comptage des sexes. Et là, on s'aperçoit que les prénoms masculins, parce qu'on a regardé par les prénoms, quand on a pris tous les prénoms, on a été regardé sur des dictionnaires qui existent, qui sont des dictionnaires de prénoms, pour pouvoir déterminer le sexe des personnages et aussi l'origine des prénoms. Donc on retrouve dans toutes les enquêtes quantitatives sur la fiction, en fait, c'est que les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes. Il y a presque 60% d'hommes et 35% de femmes. Mais en plus, donc si vous pouvez voir le suivant... Donc là aussi, vous voyez la même chose, c'est un peu sous forme de poisson. Le nez du poisson, là, c'est parce que l'année 2014 n'est pas finie. Mais vous voyez que les femmes sont nettement moins nombreuses et les hommes sont plus massifs, avec une espèce de stabilité, mais ça ne tend pas du tout à diminuer. On peut avoir le suivant? Alors ça... Ah ben... Non, c'est pas le bon ordre, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris les partitifs. Donc dans le générique, vous avez un nom qui n'est pas forcément... ça peut être homme de quelque chose, homme du GIGN, homme du... Donc on a pris toutes les prépositions qui scindaient les génériques. Et on s'est aperçu que la catégorie la plus fréquente pour les hommes, c'était les hommes de main. Et ensuite, pour les femmes, c'était... On peut avoir le suivant? Femme de ménage, voilà. Donc vous voyez, il y a homme de main, femme de ménage. Ou bien femme de quelqu'un, femme de prénom, femme de quelqu'un. Ou bien femme de chambre. Bon. Donc vous voyez, on a une image qui est déjà... C'est un exemple, mais c'est assez amusant parce qu'on voit des choses qui se dessinent, qui sont justement parce qu'on a affaire au petit personnel de la fiction, parce qu'on a tout le monde dans le générique, hein. On a 50 000 personnages, c'est vraiment beaucoup de monde. Et ben, c'est dans le petit personnel que les choses restent le plus traditionnelles, en fait. Et ça, c'est un des principaux résultats de l'enquête. On peut continuer? Alors ça, on a codé les métiers. Alors, on fait deux choses. J'ai commencé par coder les métiers, parce que l'idée que j'ai, c'est qu'il faut travailler sur les personnages comme si c'était des vrais acteurs sociaux. Et donc, je prends les catégories l'INSEE, les catégories FAP, celles qui servent quand on va à la NPE chercher un métier, et je code les personnages en fonction de ces catégories. Donc, administration, public, profession juridique, armée, police, santé, action sociale, bon. Mais c'est pas très... Vous voyez que très vite, les premiers ont pris tous les métiers, et qu'après, ça devient de plus en plus rare. C'est très concentré là-haut. Alors j'ai aussi fait mes propres catégories, et puis aussi pour rendre compte de métiers un peu plus rares, comme par exemple, là vous voyez, il y a prince et princesse, roi, prince et princesse, qui est des choses qu'on n'a pas tellement dans le... ou chevalier, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment dans l'annuaire de l'INSEE. Ça permet aussi de compter les délinquants, parce que l'intérêt des génériques, c'est qu'on n'a pas que des métiers qui sont des métiers légaux, on a des métiers qui ne sont pas légaux. Et c'est justement à travers ça qu'on peut voir aussi que finalement, la fiction présente peut-être une représentation du monde social qui a quelque chose de quelquefois plus réaliste que la représentation que nous en donnent les catégories dans lesquelles ce sont que les métiers les plus officiels qui sont renseignés.
Juste remarque, Sabine, tu veux dire que les super-héros français ou les héros français, c'est des fonctionnaires ?
Ouais. C'est ce qu'on remarque. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il y a un déclin de l'intérêt pour la fiction, ou du goût pour la social-démocratie, que la fiction française marche moins bien. Mais en tout cas, sur les 20 ans qui sont écoulés, de 1995 à 2015, clairement, vous voyez le gros ruban là, c'est l'administration publique, les professions juridiques, l'armée, la police, c'est eux qui concentraient la plus grande masse du personnel de la fiction.
Et encore une diapo,
je crois, oui. Voilà, et ben, qui redit la même chose. Donc la répartition, les hommes, les métiers d'hommes sont plus souvent décrits que les métiers de femmes. Et il y a aussi celui sur la famille. Les femmes, elles sont plus souvent présentées comme étant dans une structure familiale, c'est-à-dire mère de, fille de. Enfin, elles sont prises dans la famille et parenté, alors que les hommes sont plus souvent définis par leur métier. Tout ça reste un peu traditionnel, mais encore une fois, c'est au niveau des structures. Ça ne veut pas dire que dans le cœur de la série, dans le cœur de la fiction, ils ne vont pas prendre des positions un peu plus progressistes. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. On a vu donc dans la présentation des séries une série donc qui est passée et qui est assez intéressante, qui pourrait nous interpeller particulièrement, c'est donc Les Archives du Cardenal, qui est une série qui se penche sur l'histoire récente du Chili, à savoir donc la dictature de Pinochet et les exactions qui ont été commises tout au long de donc son pouvoir. Je voulais répartir sur vous, parce que comme ça, vous avez développé encore un peu plus avant de relancer. Vous avez travaillé, en fait, écrit sur la nature particulière des HST, donc des héros de séries télé, que je vous laisse présenter, en fait, un peu quelle était votre approche. Mais ma question est, quelle est la nature d'un héros lorsqu'il s'agit d'un personnage historique, voire d'une histoire récente? Que peut-il produire cette conjonction entre un HST et un personnage, disons, réellement, disons, qui apparaît comme réel dans le récit historique?
Alors en fait, la notion de HST, de héros de série télévisée, ça m'est apparu, enfin, ça s'est imposé en fait à moi, parce que quand on parle des personnages de série, on parle de personnages, et tout de suite, on a l'idée des personnages littéraires. Or, les héros de série télévisée, c'est pas du tout la même chose que des personnages littéraires. Parce que dans le personnage littéraire, on a des mots, et puis on habille les mots avec son imagination, ses souvenirs. On a tous une représentation différente de Madame Bovary ou de... Et on voit, on imagine des gens différents, alors que dans le héros de série télévisée, il n'existe pas indépendamment de son corps. Et il arrive toujours avec son corps, et il arrive avec sa présence physique, comme ça, très matérielle, très physique. Et du coup, il faut pouvoir rendre compte de sa spécificité. Donc, c'était parce que c'est un type de héros particulier. Et puis dès que les gens commencent à s'ouvrir un peu, la critique commence à s'ouvrir un peu en se disant bon, il n'y a pas que la littérature, il y a aussi le cinéma, donc on va peut-être et on va peut-être aussi intégrer les héros de séries télévisées. Bah, tout de suite après, on nous met les héros de jeux vidéo, les personnages d'internet et tout ça. Les héros de séries télévisées n'arrivent pas à être indépendants. Ils sont tout de suite assimilés à des personnages de jeux vidéo, mais c'est pas du tout pareil. Donc moi, je suis pour que on ait un mot pour désigner ces personnages de séries et de feuilletons qui sont quand même, ça n'a pas commencé avec les séries chic d'HBO, hein, ça fait 70 ans qu'ils sont là, 70 ans que c'est les programmes les plus regardés à la télévision, 70 ans qu'ils accompagnent vraiment toutes les classes sociales dans leur vie quotidienne, et ils méritent peut-être d'avoir un nom à part entière. Alors pourquoi HST ? Ben, héros, non pas parce qu'ils ont un rôle héroïque, mais parce que, plutôt en référence à la mythologie grecque, parce qu'ils ont à la fois, c'était à la fois des dieux et des humains, mais ils sont à la fois une une part fictionnelle et une part humaine, ce corps qui leur tient au corps, ce corps qui les attache. Donc, à cause de ça, héros, série, parce que c'est évidemment la dimension longue du lien qu'on a avec eux qui est déterminante, et télévisé, parce que c'est quand même à la télévision qu'ils sont nés. Voilà, voilà les HST.
Et je sais que là, vous avez donné un coup de coude, mais du coup, qu'est-ce que ça produit, un HST? Qu'est-ce que ça peut produire un HST lorsqu'il, à la fois, il est un héros de série télé, mais aussi il renvoie, ou en tout cas, il construit une figure héroïque dans le sens, non pas de protagoniste, en fait, mais qui se réfère à une histoire, même parfois récente.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les héros de série télévisée, ils ont un potentiel de familiarité qui est incomparable avec les autres types de personnages qu'on a connus jusqu'à présent. Parce qu'ils viennent à la maison, parce qu'on les fréquente, parce qu'on les retrouve d'une année sur l'autre. Même on les retrouve à 10 ans d'écart, ce qui vient de nous arriver avec les héros d'X-Files. On les voit vieillir, ou à 15 ans d'écart, on les voit vieillir. Et donc, ce type de présence, ça leur donne une espèce d'épaisseur, de densité, qui méritent qu'on leur donne un peu plus de dignité ontologique. Ça leur donne une présence dans nos interactions qui en fait des opérateurs d'une relation, de la relation qu'on a avec eux. Alors quand ils ont une caractéristique qui est qu'ils ressemblent énormément et vraiment de façon frappante avec des gens de la vie ordinaire. Ils se ressemblent presque trop. Et donc, ces nouvelles séries, ces nouvelles fictions qui jouent beaucoup soit sur le rappel historique, soit sur la documentation ethnographique, introduisent une sorte de trouble dans la perception de la réalité sociale, parce que, en fait, très souvent, on connaît mieux le héros de série qu'on connaît la réalité à laquelle il renvoie. Et on développe une intimité avec le héros de série qu'on n'a pas avec la réalité avec laquelle il renvoie. Et c'est pour ça que ces personnages qui incarnent des histoires fortes, des histoires violentes, des histoires dramatiques, quand elles sont des histoires réelles, moi je trouve qu'il faut absolument qu'on fasse tout un travail de critique qui recontextualise ces histoires et qui prennent très au sérieux les propos qu'ils tiennent. Voilà. Et je trouve que c'est ça qui est très très important. Il faut les voir comme des acteurs politiques à part entière. Et ils peuvent être des acteurs qui conduisent à la réouverture de questions qui ont été des questions dramatiques, comme on a vu tout à l'heure quand on voit passer les hélicoptères et on sait ce que faisaient ces hélicoptères. Ils permettent donc de réouvrir des histoires dramatiques, ou ils permettent au contraire d'être des contrebandiers qui font passer des idées et des idées qui sont des idées très très critiquables et très dangereuses pour la démocratie. Et il ne faut pas se contenter de dire que c'est une critique idéologique en général de la série. Il faut entrer au niveau des personnages, il faut argumenter avec eux, il faut discuter avec eux, il faut dire qu'on n'est pas d'accord, il faut dire qu'ils exagèrent, il faut dire qu'on a des arguments pour dire pour quelles raisons on n'est pas d'accord avec eux quand on n'est pas d'accord avec eux. S'intéresser pas simplement aux héros, mais aussi aux personnages mineurs. Bref, c'est tout un énorme chantier qui s'ouvre si on accepte l'idée du rôle politique considérable des héros de série. Voilà.
Et qu'est-ce que va définir qui est un personnage, qu'est-ce qui définit l'héros? Parce que est-ce qu'on parle de personnage principal ou pas forcément?
C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde une série, souvent il y a plusieurs personnages auxquels on s'attache. Et les spectateurs, ils s'attachent pas forcément au personnage principal. Ils s'attachent à un second, ou un troisième, ou un quatrième. Il y a quelqu'un qui peut vous dire une petite phrase qui va résonner dans votre vie pendant 4 ou 5 jours, ou peut-être 10 jours, ou même peut-être qu'il va avoir des conséquences tout à fait importantes dans des choix que vous allez faire, une vocation professionnelle ou ceci ou cela. Et je trouve qu'il faut s'intéresser à tous. Et donc traiter l'œuvre comme un monde social et faire une espèce d'ethnographie de ces personnages en les prenant tous au sérieux et en essayant de voir à quoi ils tiennent, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent. Après tout, on le fait pour les populations, on fait une ethnographie des populations. Pourquoi on ne ferait pas une ethnographie des personnages de série? Mais une ethnographie qui peut aussi être une critique.
Juste une petite chose, par rapport à l'héros en Amérique latine, j'ai la sensation... On va parler plus des téléséries au Chili. Et l'héros, il vient, c'est quelqu'un qui va pouvoir protéger la femme. En fait, c'est lui qui va donner le plus de protection à cette femme, ou c'est lui qui va pouvoir calmer les caractères d'une femme très forte. En fait, c'est les dominateurs. C'est lui qui va être l'héros en Amérique latine.
Vous entendez la grande responsabilité que met Sabine sous le dos des héros et donc l'actrice que vous êtes, vous avez joué des rôles historiques. Qu'est-ce que cela change du coup après, hein, donc avoir entendu en plus ce que propose donc Sabine. Est-ce que, qu'est-ce que ça change avec les rôles qui ne sont pas rattachés donc à un récit historique officiel, hein, parce qu'il y a une particularité spécifique du liée en fait au jeu et à la représentation des personnages historiques.
Oui, c'est complètement différent. Le Chili, c'est un pays maintenant en reconstruction. On vient d'une dictature et donc il y a des thèmes et sujets très fragiles. On est en train de reconstruire notre histoire et il y a là, je vais passer plus à les sujets de série parce que c'est les séries qui on travaille les personnages historiques plus. Et donc il y a un travail des comédiens et des réalisateurs et d'écriture avec un respect énorme parce que notre société elle est fragile encore. Elle est très fragile encore. On est en reconstruction. On commence à pouvoir parler des sujets assez touchants. La mort, la conquête, les cultures originaires, les Mapuches. Et les Mapuches, qu'il y a toujours encore la rivalité et pour la lutte des terres. Les peuples Rapa Nui qui se sentent pas chiliens parce qu'ils sentent que les oui. peuples Rapa Nui parce que et ils sont que les Chiliens ils s'approprient de leur terre en fait et ils se sont le Rapa Nui ils se sont pas chiliens parce qu'ils partagent pas les mêmes traditions. Donc voilà, donc il y a des sujets assez fragiles. La façon de travailler nous en tant que comédiens ces personnages, c'est avec une année beaucoup d'études, beaucoup de temps des recherches psychologiques, physiques du personnage, et il y a aussi des temps de répétition et la série. C'est ça la différence entre télésérie et série, qu'il y a beaucoup de temps de répétition. Ils vont faire appel à des vrais dramaturges, peut-être du théâtre, et des gens qui vont réaliser, ils vont venir du cinéma. Donc les productions, ils vont être plus cinématographiques. Est-ce que j'ai lu quelque chose?
Non, mais on comprend.
À grosso modo, oui, c'est un travail plus approfondi.
On comprend en fait que de par la composition en fait, et le période historique, sans doute les questions de la représentation, y compris dans les séries télé, sont un sujet brûlant, compte tenu du contexte politique et parfois tendu entre les minorités interraciales et disons la majorité, entre disons les rapports disons sociaux de race et ethnique en fait qui se jouent donc dans les territoires chiliens.
Oui,
donc,
oui, et surtout parce que nous en tant que metteurs en scène, aux comédiens, on doit faire attention quand on parle de ces sujets-là parce qu'il y a toute une culture et tout un peuple qui est à l'écoute et qui peut venir sur toi et de dire bah non c'est pas comme ça, pourquoi tu parles, pourquoi tu t'appropries de la parole, et on est encore en train de récupérer nos morceaux d'histoire pour pouvoir comprendre, et c'est ça, on est en train de mettre les pièces en ordre, non je sens encore, voilà, et comme comédien je pense qu'on prend la responsabilité qu'il faut dans les sujets historiques, au moins.
C'est pas tombé loin. Hein. Mmh. Donc,
mais oui. Il y avait juste aussi la question la question de la reconstruction d'un événement historique dans une sérialité. Et je pense qu'en fait, il y a la question de la fictionalisation aussi. De cette reconstruction crée énormement de méfiance en fait, en tout cas au Chili, parce que il a une idée de vouloir vérifier qu'est-ce qui est présenté comme cas, comme basé dans une histoire réelle, ça correspond. Il y a quelque chose de ça, comme si la fiction ne peut pas être complètement fiction.
détaché de cet événement, effectivement. Et donc, les personnages ne peuvent pas vivre en dehors de la source. Et du coup, il avait quelque chose d'intéressant que j'ai entendu l'autre jour dans une conférence autour de rêves et séries télévisées américaines. On se parlait de la question de personnage. Donc, le personnage existe tant qu'il est regardé par les spectateurs. Sinon, il meurt. Donc là, il y a quelque chose aussi de comment ce personnage, ou l'héros, ou bien le personnage qui partage l'espace quotidien, et donc, les spectateurs s'attachent à sa présence en permanence, parce qu'il est dans l'espace quotidien, parce qu'il existe en fait, parce qu'il est regardé par les spectateurs.
Il y a enfin un petit excursus parce que en fait il y a quelque chose, il y a un mode de représentation qui apparaît moins évident. C'est-à-dire nous on s'intéresse aux représentations, aux rapports sociaux, et une représentation qui est moins évidente quand on regarde, c'est celle du temps, la temporalité. C'est-à-dire que du coup on n'envisage pas d'emblée, lorsqu'on analyse donc les types de représentations qui portent les séries télé, à se dire tiens, mais il y a aussi un mode de représentation du temps. C'est ça que vous interrogez un peu dans votre vidéo, non?
Je peux dire que oui, effectivement, par rapport à la question de point de départ de travail que j'ai réalisé jusqu'à présent et dans l'image mouvement, parce que je préfère parler d'images en mouvement que des vidéos, puisque il me semble que la notion de vidéo peut être un peu contraignante, comme ça, je trouve plus jolie quand même, image en mouvement. Et il y a la question de n'importe quel point de départ, on discutait tout à l'heure, malgré moi, il y a comment le temps est modulé, le temps tiré vitesse est modulé. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est comment la perception de passage de temps s'inscrivent donc dans la temporalité du spectateur. Et peut-être, on pourrait dire, il y a quelque chose, si je fais des connexions peut-être larges avec la telenovela comme partage de temps de le spectateur jour à jour. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est accrocher le regard et permettre d'expériencier ce passage de temps qui est peut-être contraire au rapport qu'on peut avoir. C'est contradire les vitesses dans lesquelles on commence à être habitué actuellement. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et qui est peut-être lié à la question d'un rituel, d'un quotidien qui est pesant.
Je décris juste pour les spectateurs qui n'ont pas vu, mais en fait, tu produis des vidéos avec donc des, on peut dire des mouvements très lents, et donc ce qui apparaît, c'est une sorte de probable mise en présence, en fait, et donc tu essaies de faire émerger quelque chose là. Donc,
j'utilise souvent de ralentis comme façon de moduler. Comme une modulation de temps et vitesse d'un phénomène qui peut être extrêmement anodin. L'observation d'un événement naturel qui se transforme et cette transformation devient aussi une apparition de quelque chose d'autre qui n'est pas en fait on est presque devant aussi une sorte d'hallucination par les biais de cette extrême attention. Et que, quelque part, je pense que c'est aussi ça qui m'a marqué, qui est inversé dans mon première source d'images visuelles, que c'est les clips, non ? Que c'est donc la vidéo, clip, la vidéo musicale, elle est construite en façon d'un rythme musical où il a beaucoup d'images, beaucoup de mouvements, le son et tout est façonné ensemble. Mes vidéos, c'est pas ça du tout. Donc c'est justement là avec ces questions-là, je regarde ok comment on est les sources qui nous nourrissent dans le travail n'est pas forcément on répète pas ça.
Et voilà.
Ben, représentation du temps, hein, de l'histoire. Donc, Serge Cotterivel, les récits, en fait, les récits historiques, en fait, nous disent quelque chose des rapports sociaux qui se sont joués, donc, dans certaines époques, mais que nous disent, en fait, les représentations, et celles des séries télé aussi, lorsqu'elles prennent comme objet, effectivement, des faits historiques, de quoi parlent-elles, finalement ?
Bah, en tout cas, moi, si je parle de mes impressions en rapport avec ces sujets, dans aussi bien les séries que les telenovelas, faut prendre en compte ce public de deux productions. Même si on analyse les deux ici un peu au même niveau, il y a des différences importantes par rapport à ça. Et on a vu dans les extraits, dans les telenovelas qui prennent un sujet un peu plus historique, c'est très souvent, et c'est l'idée que j'ai moi-même, en rapport avec cette idée du roman national. Ce qui faisait la littérature déjà au XIXe siècle, dans cette envie d'affirmer les identités nationales, de représenter l'histoire nationale qui construit vraiment la nation et qui identifie tous sous les mêmes idées, sous les mêmes symboles de la nation. Et donc, de cette manière-là, on va retrouver assez souvent des telenovelas historiques, mais surtout avec environ ce 19e siècle, par exemple, ou début du 20e siècle. Et c'est pour moi très lié vraiment à cette idée du roman national. Après, dans des séries beaucoup plus récentes, c'est pas du tout ça. Où on a vu des extraits des séries qui questionnent directement la mémoire récente, douloureuse des pays, et qui n'est pas du tout dans la même esthétique et les mêmes objectifs. Et ce qu'on retrouve aussi dans la littérature contemporaine, et qui fait tout ce travail de mémoire du passé récent, des dictatures, des questions vraiment dures d'il y a 30 ou 40 ans. Et donc les séries commencent aussi à reprendre ces images-là à l'écran. Donc, je crois qu'on voit assez souvent ces deux côtés-là, une variété très importante. Je ne connais pas toutes les productions, évidemment, mais c'est l'impression que j'ai. Et pour moi, je le vois de cette manière-là, en comparaison avec, avec la littérature et ce qu'elle faisait déjà depuis pas mal d'années. Et cependant, ce qui peut nous intéresser aussi, c'est que maintenant, c'est surtout les séries qui ont un public très, très, très important, très élargi, les telenovelas, mais peut-être pas autant la littérature. Et donc, ces questionnements-là arrivent à beaucoup plus de gens dans le continent. C'est l'impression que j'ai.
On a souvent rappelé ou reproché, selon les positions qu'on adopte, un rôle un peu prescripteur en série télé. Est-ce que ce rôle prescripteur, c'est-à-dire en termes de référence de genre, référence à sexualité, ou est-ce que, voilà, vont s'étendre jusqu'à, par exemple, par rapport à l'histoire, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent un peu reprocher aux séries d'avoir ce rôle de prescripteur-là, ou si ne pas le reprocher, on peut le reconnaître? Ou pas.
Je crois que je le vois beaucoup moins dans les séries, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, en rapport avec ce questionnement du passé et la reconstruction de la mémoire. Donc il n'y a pas du tout cette idée-là. Par contre, dans d'autres productions qui reprennent des idées d'identité nationale qui ont été importantes pendant vraiment très longtemps dans la construction des États-nations en Amérique latine. Là, oui, on peut le voir beaucoup plus clairement, cette idée-là, et qui est évidemment très liée aussi à la question de genre et des sexualités, parce que, dans ce sens, la nation est construite sur cette base-là, aussi très genrée. Et justement, par rapport à la toute première question, cette ouverture beaucoup plus récente dans la telenovelas, on peut se demander aussi jusqu'à quel point c'est vraiment ouvert et c'est vraiment ça questionne vraiment la société qu'elle essaie de représenter, parce que oui, il y a plus de personnages, plus de variété dans ces personnages-là, des problématiques représentées, mais est-ce que ces bases traditionnelles sont vraiment remises en question? Par rapport, on a vu des extraits de matchs, c'est très intéressant de voir et comment la telenovela essaie de montrer qu'il n'y a pas que cette masculinité unique, patriarcale, qui peut exister, qui peut être représentée dans ce genre de récit, mais aussi d'autres possibilités. Mais tout ça sur la base de ce récit de la telenovela, qui reste traditionnel, qui reste basé sur le mélodrame. Oui, ça s'ouvre de plus en plus, mais c'est pas forcément très avant-gardiste dans ce sens-là. Enfin, ça le fait petit à petit, mais j'ai l'impression que ça essaie d'évoluer en regardant la société, pas pour la changer, mais pour représenter ce qu'elle demande déjà. Donc, et ce qu'on voit au moins dans les telenovelas, je crois que les séries en Amérique latine contemporaine, ça questionne beaucoup plus pour aller chercher un peu plus loin. Et en tout cas, je ne sais pas, je ne connais pas les études sur la réception en ce sens, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas le même public qui va regarder ces deux possibilités.
Donc, peut-être pas prescripteur, mais tout de même une demande d'une adhésion à un récit, parfois donc un récit national ou nationaliste. Sabine, on va faire un tribunal.
Hein, oui, moi, je suis pour qu'on juge les personnages.
On va avec le juge. Allez.
Un tribunal des personnages.
Allez, c'est ton tour.
Non, parce que ce qui me dérange, bien sûr, je suis d'accord. La fiction, en principe, on est en régime d'irresponsabilité. On suspend son incrédulité. On se laisse prendre par la fiction. Tout ça, je suis d'accord. Mais ces fictions qui, elles, prennent des faits réels, des situations réelles et proposent un récit dessus. Elles sont à la limite parce qu'elles jouent de l'irresponsabilité de la fiction et puis en même temps, elles prennent des positions qui sont des positions... pas les séries, mais les personnages prennent des positions qui sont des positions du monde et pas de la fiction. Et donc, je trouve que quand ils vont dans cette voie, par exemple, dans 24 heures chrono, 67 scènes de torture justifiées à chaque fois parce qu'on n'avait vraiment pas les moyens de faire autrement, ben, ça vaut la peine de discuter avec Jack Bauer. Mais discuter vraiment, c'est-à-dire dire vous dites ça, ben nous on pense ça, vous dites ça, on pense ça. Entrer dans une controverse, mener la controverse avec les personnages. Pour l'instant, quelqu'un qui ferait ça, il a l'air un peu bizarre. On dit, qu'est-ce que c'est que ce critique qui veut discuter avec Scully, Mulder ou Jack Bauer ou les héros d'Atoufi. Mais je pense que c'est quand même la voie vers laquelle il faut essayer de se diriger. C'est-à-dire, s'ils veulent intervenir sur le monde, eh ben, il faut discuter avec eux de cette intervention sur le monde. Donc il faut documenter, il faut aller chercher des références, il faut faire toute une critique complètement différente, mais avec Internet, c'est possible. Il faut constituer des dossiers, il faut dire voilà ce qui s'est passé. Il faut qu'on se débattre sur ce qui s'est passé, mais il faut travailler sur tout un environnement qui, justement, réancre la fiction pour ne pas les laisser jouer sur la responsabilité comme ça, sans y aller, quoi, sans assumer. Voilà. C'est un peu ça la position que je voudrais défendre. Donc, c'est un peu un autre paradigme, c'est un changement de la critique. C'est pas seulement une critique esthétique, c'est pas seulement une critique idéologique, c'est vraiment prendre ce que les personnages disent et puis les juger.
Merci. Donc, je pense qu'il est le moment pour ouvrir aux questions au public.
Voilà donc moi, ce qui m'intéresse en tant que réalisateur et aussi anthropologue, c'était vraiment de découvrir aujourd'hui un peu tout ce qui se produit en Amérique du Sud, mais pour bien comprendre un peu le contexte, je veux dire, culturel et aussi idéologique, il faut se dire quand même que ce continent est quand même un continent qui a subi quand même le choc de la colonisation. Vous avez cité la conquête, etc. Et aussi en tant qu'Africain, ce qui m'intéresse, c'est... quand on regarde un peu l'histoire de ce grand continent, ben, qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit que les Indiens se retrouvent pratiquement minoritaires partout. Il y a peut-être en Amérique dite du Sud un ou deux ou trois États où les Indiens sont un petit peu majoritaires. et dans tous les autres, ils sont vraiment minoritaires. Alors ma question est, est-ce qu'il existe un cinéma vraiment indien qui présente leur culture avec des réalisateurs, des acteurs, et c'est ce côté-là qui m'intéresse. Parce que bon, c'est vrai que les télénovelas sont aussi là pour faire de l'argent, et je veux dire, en fait, elles prennent tous les clichés qui existent déjà en Occident, donc c'est plutôt une vision occidentale de la culture audiovisuelle, mais moi j'aimerais savoir s'il y a vraiment une vision, s'il existe une production vraiment typiquement indienne. Voilà.
Je pense qu'on peut donner, enfin, juste en tant que j'interviens juste pour je pense qu'il y a un niveau où toute cette critique là que vous adressez aux séries télé, je pense qu'on peut les adresser au cinéma. Hein, c'est-à-dire voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut, je crois que ce serait un biais un peu trop anthropo-fidèle, enfin plutôt anthropo-croyant, que de croire que le cinéma donnerait une vision qui ne serait pas aussi biaisée de stéréotypes que celle des séries télé. Justement, je pense que le travail qu'on fait ici, c'est de donner un peu du tonus aux séries télé, de leur donner aussi, de les dorer un peu pour comprendre que c'est vraiment des objets qui méritent autant que le cinéma. Mais j'entends en fait ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a une tradition cinématographique anthropologique qui effectivement peut-être n'existe pas pour autant comme forme de série télé. Mais c'était juste là-dessus, je voulais, avant qu'on intervienne, pour vous dire que voilà, les mêmes objections de biais donc occidentalo-centré, en fait, on pourrait les adresser au cinéma. Maintenant, je vous laisse répondre, parce que c'est un domaine dans lequel moi, je ne peux pas m'exprimer.
Bon, déjà, pour moi, c'est un peu difficile. Enfin, la question d'entendre un cinéma indien, je ne sais pas trop qu'est-ce que pourrait dire cette dénomination en soi. Je dirais qu'effectivement, si on parle de telenovelas ici et on essaye de dégrossir peut-être la question d'une certaine idée d'identité latino-américaine, donc, dont je ne suis pas tout à fait d'accord, qu'on pourrait parler d'une identité latino-américaine. Je pense que la question que vous aviez justement soulevée, c'est qu'on est des pays tellement divers et qu'on est partagé et traversé par la question des colonisations, justement, et que cela marque la question de réception, les questions de diffusion, les questions de production et des œuvres. Donc, par exemple, au Chili, je m'aventure à dire que les telenovelas viennent à remplir un espace de création, production, puisque le cinéma était n'est pas une industrie vraiment au Chili. Il y a eu des époques de réalisation cinéma au Chili qui étaient fortes, dans les années 60, où je peux vous parler d'un film extraordinaire et que je pourrais vous penser que c'est proche au cinéma vérité, qui c'est un film qui s'appelle Chacal de Nahuel Toro, et réalisé par Miguel Littin. Et il y a d'autres réalisateurs qui ont travaillé à l'époque. Maintenant, la réalisation actuelle commence à s'installer un peu plus fortement avec des thématiques de toutes sortes. Hein, je ne pourrais pas définir exactement. Il y a aussi des émergences mapuche. Donc, je dirais que c'est... il y a des poètes mapuche. Il a quand même, ça commence à donner une certaine place, et je suis d'accord que le Chili n'a jamais donné la place suffisante aux minorités ethniques, comme dans d'autres pays, et même constitutionnellement, la question est très compliquée. Donc, c'est le cinéma comme les grands espaces de réivindication autorale, c'est pas que le cinéma, je dirais. Et je ne peux pas dire non plus que l'espace télénovela, c'est l'espace de réivindication autorale non plus, mais quand même véhicule un rapport au quotidien de spectateurs, et qui me semble important, et qui me semble que les contenus que même qu'on a vu ici il y a eu une grande progression, il me semble, dans l'approche de thématique, puisqu'on voit des reproductions des modèles brésiliens ou des modèles vénézuéliens de réalisation de telenovelas où la polarisation de la bonne, la mauvaise, la lutte des classes et tout ça, mais commence à apparaître des contenus spécifiquement au Chili, qui me semble important, donc les paysages chiliens, les minorités même, on voit les gitans, par exemple. Et il y a d'autres séries, telles séries qui n'ont pas été ici dans le trailer, mais qui proposent quand même un certain idée de pouvoir saisir un peu l'histoire nationale en quelque part. Avec des défauts ou pas, mais il me semble que c'est un espace en construction et que voilà.
Moi, je peux dire que ça fait 3 ans, je fais une création d'une pièce qui parlait du peuple mapuche, s'appelle Aborigène. Et là, je fais une recherche, j'ai trouvé des films, notamment mapuche, qui sont réalisés au Chili, mais sont des productions indépendantes. Parce que c'est pas on va pas gagner de l'argent avec ça, et c'est pas, il y a pas de marketing, donc ce sont des productions que les réalisateurs ils vont envoyer à l'étranger, des petits festivals d'ethnie, justement des peuples, voilà. Et mais s'il existe, il y a pas beaucoup, mais l'idée maintenant, ça que j'ai entendu, l'idée, ça fait des années que le Chili essaye de décentraliser Santiago. Parce que, si, je ne sais pas si vous savez, le Chili, il est long, il y a Santiago, c'est au milieu, et on a tous les climats, toute la géographie, on a l'Antarctique, l'île des Pâques, les déserts d'Atacama. Donc, on se promène pour un pays hyper riche au niveau géographique. Donc, l'idée depuis des années, et c'est pas réussi encore, c'est faire la décentralisation. Donc, il commence à avoir plus d'aide à niveau subvention de l'État pour des productions en région. Donc là, je pense qu'il commence un peu à avoir un peu d'appui dans le sens de la décentralisation surtout.
Mais juste pour rebondir un peu, on n'a pas eu vraiment de travail vraiment de champ comme c'était réalisé en Afrique. Je ne sais pas, je pense à Jean Rouge par exemple. On n'a pas eu vraiment de réalisateurs qui je sache, parce que peut-être. Que,
mais si, vois, je parle si de, dans le documentaire.
Très longtemps, hein,
oui, si dans le documentaire. Là existe beaucoup, oui, des productions documentaires des nids. Surtout.
Mais pas réalisé par les Indiens.
Non.
Mais c'est intéressant parce que cette question est toujours posée aux autres.
Ouais.
La France est un pays où il y a encore des territoires en voie de décolonisation, par exemple la Nouvelle-Calédonie. Personne ne se demande s'il existe. Personne ne nous demande est-ce qu'il existe un cinéma kanak. Donc c'est intéressant parce qu'on renvoie toujours la question, c'est toujours les autres, les colons. Voilà, bon, après, je bureau, je suis rital, donc. Cette question dans la salle, sinon je vous rends. Oui.
Bon, comme on est dans les représentations, il y a le héros, mais les méchants, los malos. Non, vraiment, il faut faire une typologie des méchants dans les séries, parce que c'est très, très intéressant. Je le dis parce qu'il y a une doctorante brésilienne qui avait commencé à s'intéresser aux méchants. Et j'ai découvert, du coup, enfin, moi, je ne l'ai pas travaillé à travers les séries, mais plus à travers le cinéma, que c'est très en rapport avec des représentations identitaires. Si vous prenez la filmographie américaine, le méchant, c'est un vrai méchant. Et il est méchant jusqu'au bout. Et quand il meurt en méchant. Il crie qu'il est méchant. Si vous prenez la filmographie européenne, alors là c'est très divers et très varié, mais on voit qu'il y a des méchants ambigus qui ne sont pas véritablement méchants ou qui sont méchants ponctuellement et puis pas toujours méchants. Moi, je suis aussi de la génération de Dallas et je me souviens très bien que dans Dallas, J.R., c'est un vrai, vrai, vrai méchant. Et dans les séries que l'on a vues parallèlement en France, eh ben, les méchants, ils ont quelque chose quand même qui les sauve. Alors c'est très important parce que c'est en rapport avec la représentation de la rédemption. Et on sait bien que la rédemption qui vous permet de vous sauver n'est pas pensée de la même façon dans une culture protestante et dans une culture catholique. Donc je me demandais s'il y avait des études sur les méchants, los malos, yeah. Si. Et si justement, ça ce serait très intéressant, si selon les pays latinos, on voyait des figures de méchants différents. Sabine, tu n'as pas travaillé sur les méchants, non ?
Une étude démographique, surtout socio-professionnelle, sur les méchants. Quel est le métier des méchants ? Ça
fait partie. Mais le méchant, ça peut être un héros aussi.
Oui, bien sûr. Alors voilà, c'est ça. De plus en plus.
Je peux dire quelque chose par rapport à ça. Et les méchants, selon mon point de vue, en tant que comédienne, et c'est la fine ligne rouge qui va. On peut, les héros. Il peut être l'héros ou les méchants, dans le sens que... tout à l'heure, je dis que l'héros au Chili, ça va devenir les protecteurs ou les dominateurs, les bons dominateurs de la femme qui a besoin de protection. Et si on pense à méchant ou à mauvais, malo, et ça pourrait être... les mauvais dominateurs, c'est lui qui frappe, c'est lui qui crie, c'est lui qui la domination dans l'autre sens. Voilà, je pense.
Sabine.
Je voulais juste rappeler que François Jost a fait un livre sur les nouveaux méchants et que c'était important. Donc il analyse l'évolution des méchants dans les séries américaines.
Oui, j'ai envie de souligner qu'on parle que de méchants, enfin les méchantes sont pas là. Ben, donc on termine ici notre table ronde, on laisse donc la place à la performance musicale. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à la table ronde et merci.